À l'écoute des solidarités, saison 3.
On ne respecte pas la dignité des pauvres parce qu'on ne veut pas les écouter. On pense qu'ils n'ont rien à dire.
Solidarité! Solidarité! Avec les réfugiés!
Le nombre de personnes qui doivent pointer à l'aide alimentaire a été multiplié par 3 en moins de 10 ans. Pour stopper ce phénomène, il semble qu'il n'y ait qu'un seul remède. Marteler à longueur de plateau télé, garantir un caddie pas cher pour que les plus pauvres puissent faire leurs courses comme tous les gens normaux. Est-ce à dire qu'on sortirait de la société normale si on ne pouvait plus consommer comme tout le monde, et en particulier la nourriture du supermarché ? Lorsqu'on tombe dans la précarité alimentaire, il semble qu'on change de place. Qu'on est un peu mis au banc de la société normale, de celle qui a les moyens de s'acheter ce qu'elle veut pour garnir sa table.
Peut-on penser une autre alimentation, à un autre système qui n'exclurait pas des millions de personnes ? Dans ce premier épisode, nous allons cheminer depuis cette condition de consommateur, consommatrice, jusqu'à un horizon plus désirable. La démocratie alimentaire pour tous et toutes. Je suis Germain Filoche.
Je suis Violette Voldoir.
Vous écoutez À l'écoute des solidarités, un podcast du Festisol.
Qu'est-ce que cela veut dire alors de tomber dans la précarité alimentaire et comment revendiquer un droit à l'alimentation ? Nous en parlons aujourd'hui avec 3 invités. Laurence, vous êtes responsable du programme Ensemble bien vivre et bien manger du Secours catholique. Bonjour.
Bonjour.
Tanguy Martin, vous êtes avec nous à distance et co-auteur d'un manifeste pour la sécurité sociale alimentaire. Bonjour Tanguy.
Bonjour.
Et avec nous Patricia du réseau ATD Carmonde. Vous allez nous parler d'initiatives concrètes de solidarité alimentaire et on est ravis de vous avoir avec nous autour de ce plateau. Bonjour Patricia.
Bonjour.
Maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet, si je puis dire, et commencer par écouter un peu. Quel est l'état des connaissances du sujet, justement, de cette, ce qu'on appelle la précarité alimentaire, mais du côté des politiques ?
J'essaye d'être juste, faire attention à ce que les prix baissent pour le consommateur, parce que j'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir, et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Et je sais parfaitement à quel point ces prix sont devenus insupportables pour les Français.
On l'a dit très tôt, il faut bloquer les prix des produits de première nécessité. Et c'est très facile à faire.
Il y a un désaccord très clair.
Les pâtes, le riz, le lait, l'eau doivent pouvoir être accessibles à tous et à toutes et pas, de notre point de vue, par la baisse de la TVA. Parce qu'en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire moins de recettes pour l'État et en fait, vous allez payer plus cher. Parce
sur ces produits-là, la TVA, elle est déjà à 5,5.
Mais en plus,
bloquer.
Nous pensons que là où se font les marges, c'est là où les distributeurs font le plus de profit, en vérité. C'est les intermédiaires.
Face à cette situation, le gouvernement, vous l'avez dit, agit. Il a agi dès cet été avec le projet de loi de finances rectificative en doublant les crédits de l'aide alimentaire. 55 millions d'euros supplémentaires pour faire face à l'inflation. On a également, non pas doublé, mais cette fois triplé, puisqu'on a rajouté 40 millions d'euros dans la seconde loi de finances rectificative, là aussi pour soutenir l'aide alimentaire, dont 10 millions d'euros ont été débloqués en urgence pour soutenir nos étudiants, en plus des repas, des crous à 1 euro.
Alors le gouvernement rétablit son dispositif de 60 millions d'euros par an, un dispositif qui est complètement insuffisant et inopérant pour faire face à la précarité alimentaire et très loin de ce que nous avons proposé, qui était un dispositif d'aide de 50 euros par mois et par personne bénéficiant des minima sociaux. Là, si on rapporte le dispositif qui a été voté là en séance, il s'agit de 2 euros par an et par personne, 15 centimes par mois et par personne qui est en situation de précarité alimentaire.
Voilà, vous venez d'entendre par ordre d'apparition à l'écran sonore le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, la députée France Insoumise, Danielle Obono, mais aussi Jean-Christophe Combe, le ministre des Solidarités, et la députée écologiste Francesca Pasquini. sur une proposition d'ailleurs présentée par le groupe écologiste lors de sa niche au Parlement. Alors, est-ce qu'on peut mettre un signe égal? Est-ce que c'est si simple, voilà, de mettre un signe égal entre précarité alimentaire et prix du caddie au supermarché? Laurence, peut-être, pour commencer.
De qui parle-t-on aujourd'hui quand on adresse cette question de la précarité alimentaire? Quand on regarde la question des chiffres, il faut effectivement arriver à distinguer les personnes qui sont en difficulté aujourd'hui pour accéder à une alimentation durable et de qualité et les personnes qui sont à l'aide alimentaire. C'est-à-dire que pour les premières, on peut mettre ça sous le champ assez large de l'insécurité alimentaire et on considère que c'est de l'ordre de 8 millions de personnes en France, gens qui sont à l'aide alimentaire. Les chiffres ont varié, on a été jusqu'à, d'après les chiffres de la DGCS, à 7 millions pendant la Covid. Aujourd'hui, on dit qu'on est plutôt entre 2 et 4 millions, voilà. En tout cas, il y a un delta qui est assez important entre les deux. Et ce que nous disons avec d'autres, c'est qu'on ne peut pas prendre cette question de la précarité alimentaire uniquement sous le prisme de l'aide alimentaire aujourd'hui. Or, une des questions qui nous interpelle, c'est qu'on a un programme gouvernemental qui s'appelle « Mieux manger pour tous ». Mais en fait, on ne traite dans ce programme-là que des personnes qui sont en situation de l'aide alimentaire. Et donc,
disons que la précarité alimentaire, c'est pas simplement des personnes qui ne peuvent pas faire les courses et qui ne peuvent pas se permettre de faire les courses. C'est plus compliqué que ça.
Oui, puisque la question de l'alimentation, c'est une question qui a plein de dimensions. C'est des questions qui peuvent avoir trait effectivement à l'accès, mais il y a la question de l'offre. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une offre de qualité, ou même une offre tout court, ou une offre de qualité qui est accessible? C'est la question de la mobilité pour les personnes. Est-ce qu'elles peuvent se déplacer ou pas? Il y a la question du logement qui est derrière. C'est-à-dire, est-ce qu'on est en capacité de cuisiner ou pas? Il y a la question des représentations. Quel regard a-t-on sur moi selon ce que j'achète, ce que je cuisine, etc. Et donc, en fait, on invite avec d'autres à regarder cette alimentation de manière large en termes de public et large également en termes de sujet pour traiter vraiment ce caractère multidimensionnel de l'alimentation.
Germain Filoche.
Oui, c'est intéressant ce que vous dites parce que on a l'impression que la précarité alimentaire, beaucoup de gens sont concernés. D'ailleurs, on aimerait bien savoir peut-être dans quelle mesure est-ce que les gens sont concernés depuis combien de temps, en fait, ça existe, la précarité alimentaire? Est-ce que ça a toujours existé en France ou est-ce que c'est un phénomène qui est nouveau?
Aujourd'hui, par exemple, on n'a pas en France de définition et d'observatoire de la précarité alimentaire. C'est une des questions, d'ailleurs, qu'on a traitées dans le cadre du Comité national de lutte contre la précarité alimentaire. Il y a des chiffres qui existent au niveau national et international sur l'insécurité alimentaire. Ça, c'est assez bien documenté. Mais la précarité alimentaire, dans l'ensemble des dimensions que je viens d'évoquer, en fait, on n'a pas de données exactes. En fait, pourquoi est-ce que on aborde cette question-là? Parce que il nous semble qu'effectivement, on peut pas traiter la question de l'alimentation simplement sur un nombre de calories et de penser les personnes comme des ventres à remplir, mais réellement comme des personnes qui ont à s'exprimer. Ça rejoint cette question sur laquelle on reviendra, de démocratie alimentaire, c'est-à-dire qu'on pense que chacun doit pouvoir accéder à une alimentation durable et de qualité et pour ce faire, doit pouvoir contribuer en fait à ses choix. Or, aujourd'hui, un des problèmes de l'aide alimentaire, c'est que les personnes n'ont pas le choix de leur alimentation.
C'est justement ça. Une autre question, c'est il y a une distribution alimentaire qui existe en France. Alors, qui en bénéficie? Est-ce que ça suffirait pas justement à combler ce problème de précarité alimentaire?
L'aide alimentaire, c'est peut-être 2 à 4 millions aujourd'hui, selon les chiffres qu'on peut avoir. L'insécurité alimentaire, on dit que c'est plutôt 8 millions. On voit bien, l'alimentation, c'est vraiment la variable d'ajustement du budget des ménages aujourd'hui. Et avec l'augmentation des charges et des charges contraintes, il y a une forme de paravent qui est mis à la lutte contre la pauvreté en général par l'aide alimentaire. C'est-à-dire, on offre une aide alimentaire, donc un accès à une alimentation gratuite. Ce qui permet de masquer le fait qu'aujourd'hui, les personnes en précarité ont des niveaux de revenus qui sont insuffisants. Et le Secours catholique, avec d'autres, plaide pour une augmentation des revenus, et notamment des minima sociaux, pour que tout le monde puisse vivre dignement ou moins survivre. Or, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et l'aide alimentaire, elle est nécessaire parce qu'on est effectivement dans une situation catastrophique. Mais ça, finalement, empêche de regarder la question de la lutte contre la précarité dans son ensemble.
On va y revenir justement à cette articulation entre précarité alimentaire et précarité tout court, mais je vais me tourner vers vous, Patricia, puisqu'on voulait parler aussi d'aide alimentaire avec vous, puisque chez ATD Quart Monde, vous connaissez quand même bien la question de l'aide alimentaire. Pour vous, est-ce que c'est difficile de solliciter l'aide alimentaire pour les personnes qui en ont besoin? Est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose de pas forcément simple quand on se retrouve dans une situation où, voilà, du jour au lendemain, comme ça peut devenir compliqué?
Bah écoutez, nous sur Dijon, c'est pas évident parce qu'on a l'impression, dans notre groupe à Tête Garmande à Dijon, que quand on va à Épi-Sourire ou au Secours Populaire, quand on voit des gens qui nous connaissent, on a l'impression que c'est marqué sur notre front. Et ils le disent à tout le monde, tiens, on l'a vu aller à Épi-Sourire, elle doit avoir des problèmes. C'est vrai, pour nous, c'est pas évident.
Ça fait jaser un peu les gens.
Oui, voilà, ça fait jaser les gens et on a l'impression d'être mal vus.
Épi-Sourire, juste pour préciser, c'est une épicerie solidaire, c'est quoi?
Oui, voilà, c'est une épicerie solidaire.
Et qu'est-ce qu'on y trouve justement dans cette épicerie solidaire comme type de produit?
D'après ce que j'ai entendu, parce que moi je ne suis jamais allée, ceux qui y ont été trouvent du lait, mais des fois c'est du lait périmé. Les yaourts, faut les manger tout de suite parce que la date est dépassée d'au moins 5-6 jours. Les fruits, faut les couper en deux pour pouvoir en manger une partie, c'est vrai que c'est pas évident pour eux.
Est-ce que vous avez déjà entendu des histoires de gens qui ont renoncé à y aller, justement parce qu'ils n'avaient pas envie qu'on parle dans leur dos ou qu'on voit qu'ils se retrouvaient dans des situations difficiles?
Ben oui, je connais quelqu'un, elle veut pas y aller, non. On fait des petits sacs et puis on lui pose, on lui dit pas, on les pose sur sa table et puis bon, elle les voit quand on est parti.
Et comment ça se passe alors concrètement, l'aide alimentaire pour les gens qui sont jamais allés, qui ont jamais vu, voilà, qui savent pas trop comment ça se passe dans la vraie vie, on va dire?
Sur Dijon, ce qu'on trouve moins dans l'aide alimentaire, il y a des légumes, des yaourts, du fromage. Mais surtout, ce que les gens veulent, c'est de la viande un peu et puis du poisson. Ça, ils ne peuvent pas les conserver. C'est vrai que quand on n'a pas de congélateur ou qu'on n'a pas de frigo, on ne peut pas les prendre.
Il faut au moins un minimum avoir un logement pour pouvoir se faire la cuisine et puis pour pouvoir conserver un peu les choses. Je me retourne vers vous, Laurenceux, justement. Alors peut-être que j'ai pas utilisé le bon terme de précarité alimentaire finalement, mais tout ça est compliqué, précarité, insécurité, je comptais sur vous pour élucider tout ça. Mais quand on regarde les inégalités alimentaires et donc les personnes qui sont bénéficiaires de l'aide alimentaire, donc là on parle de quoi? On parle de colis, on parle aussi d'aide financière, donc des coupons, des bons, il y a ce qu'on appelle les soupes populaires aussi, il y a pas mal de choses en fait dans l'aide alimentaire, alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu mieux de quoi on parle concrètement?
Aujourd'hui, quand on parle d'aide alimentaire, on parle de distribution et de distribution de produits. Et donc, c'est ce qui a été mis en place depuis le milieu des années 80 avec les banques alimentaires, avec les Restos du Cœur. Et donc, il y a également le Secours Populaire et la Croix-Rouge qui sont aujourd'hui les acteurs majeurs de l'aide alimentaire en France. De fait, il y a d'autres types d'aides qui sont faites et notamment des aides financières via les centres communaux d'action sociale ou même le Secours Catholique distribue un certain nombre d'aides financières. Il nous semble en fait qu'il faut distinguer ce qui est de l'ordre de la réponse à l'urgence sociale. Et donc, dans ces cas-là, il faut bien pouvoir agir et de manière très rapide pour venir en aide aux personnes en précarité de ce qui est une forme de situation dans laquelle les gens soit ont un coup dur, soit effectivement connaissent des situations de pauvreté. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on a quelque chose qui est complètement indistinct et qu'on a tendance à appliquer en fait les mêmes formes de réponse, quelle que soit la situation des personnes. Et c'est là où il y a quelque chose qui ne convient pas. Et par ailleurs, aujourd'hui, le système est fait de telle façon que l'aide alimentaire, en fait, fait partie du système alimentaire français. Et donc, on a une part importante de l'aide alimentaire qui provient de surplus de la grande distribution. Il y a eu un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales en 2019 qui a dit que l'aide alimentaire, globalement, était d'un point de vue nutritionnel un peu... comment dire, elle pouvait laisser à désirer, que d'un point de vue gustatif, c'était souvent assez douteux, et que surtout, en fait, le système était tel que l'État en la matière était un payeur aveugle. Donc, en fait, il y a une forme de consensus aujourd'hui sur le fait que les choses doivent changer, aussi bien pour la qualité de ce qui est produit. Et donc, si à Dijon, vous avez des légumes, etc., c'est déjà quelque chose qui n'est pas commun partout. Parce qu'on entend aussi, nous, beaucoup de personnes qui se retrouvent par ces effets, en fait, de redistribution, avec des palettes de chips entières et donc qui ne savent pas quoi donner. Et donc, aujourd'hui même, des personnes qui sont engagées dans ces opérations de distribution se retrouvent, en fait, à faire le tri entre ce qui est donné par la grande distribution et ce qui peut être ensuite donné aux personnes. Donc, c'est même pas satisfaisant, en fait, pour ces acteurs qui se retrouvent là. Donc, ce consensus-là fait que aujourd'hui, par exemple, le Conseil national de l'alimentation, l'an dernier, qui réunit quand même tous les grands acteurs de la lutte contre la précarité alimentaire en France, a dit que il était important de reconnaître et de mettre en œuvre le droit à l'alimentation en France. Et il y a quelque chose là qui est assez nouveau sur le sujet. Le gouvernement, après 2 ans de négociations, abouti à ce programme gouvernemental « Mieux manger pour tous », avec l'idée qu'effectivement, il y ait des fonds qui soient dédiés à l'achat de produits, de fruits, légumes, légumineuses, produits sous label de qualité.
Et donc, des chips et, voilà, des chips et du saucisson.
Donc il y a une prise de conscience, et ça, c'est plutôt chouette. En revanche, effectivement, la question qu'on pose de manière plus large, c'est d'une part d'interroger la question de l'accessibilité financière et des revenus, d'autre part, du soutien à la production durable et de qualité.
Ça, on va y revenir justement.
Et par ailleurs, troisième point, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, on pense, et les personnes en précarité le demandent aussi, d'avoir voix au chapitre sur le sujet. Et donc ça, c'est toutes les questions de participation, processus de démocratie alimentaire, on y reviendra. Mais il y a effectivement un chantier énorme devant nous parce que on est héritier d'une part du modèle agro-industriel des années 60 et d'autre part d'un mode de fonctionnement mis en place pour répondre à la urgence dans les années 80 qui s'est pérennisé, institutionnalisé et ne prend pas en compte les enjeux de lutte contre la pauvreté en général et d'enjeux de précarité alimentaire en particulier.
Quand on est dans cette situation de précarité alimentaire, combien de temps on reste en fait dans cette situation et comment on en sort ?
J'ai envie de dire que c'est vous posez cette question-là qui est vraie en fait pour la question de la lutte contre la pauvreté. En tout cas, au Secours catholique, les personnes que nous rencontrons ont en moyenne 500 euros par mois pour vivre.
C'est sous les minima sociaux parce que le RSA c'est plus que ça, c'est 600 euros.
Oui, oui. Et en fait, si on prend le, c'est des gens qui ont des restes à vivre qui sont extrêmement faibles. Il y a pas de choix. Et donc c'est pour ça qu'on a cette donnée de base qui est dire en fait. Si on veut que les gens puissent à minima sortir la tête de l'eau pour entrer dans des démarches pour essayer de s'en sortir, faut qu'elles puissent survivre. Aujourd'hui, on a toutes les personnes qu'on rencontre nous disent nous on passe notre vie à tout compter, à être vraiment des grands mathématiciens, à tout noter, à faire la course pour trouver le truc le moins cher en disant voilà, même ce qui est aujourd'hui des offres au rabais pour nous, c'est trop cher, c'est vraiment de la survie. Moi j'étais avec Sonia il y a la semaine dernière. On avait une grande fête sur une expérimentation de territoire à vivre. Elle n'a pas mangé à midi, alors qu'il y avait un buffet, etc. Je lui dis, pourquoi tu ne manges pas, Sonia? C'est chouette et tout ça. Mais non, en fait, moi, j'ai pris l'habitude, je ne mange plus à midi. Et je ne vais pas manger à midi aujourd'hui, parce que demain, sinon, j'aurai faim à midi. Et bon, voilà, je dis ça, c'est que c'est une injustice énorme. Et sur la question d'accéder simplement à une alimentation, ensuite, il y a des inégalités dans ce à quoi on peut accéder. Il y a des inégalités dans le monde agricole. Et donc, c'est tout un système qui convient de transformer et d'appréhender de manière globale. Et
donc on ne sort pas de la précarité alimentaire comme ça, quoi.
Bah sortir de la précarité alimentaire sans sortir de la pauvreté, je pense que c'est compliqué.
Tanguy Martin, justement, quel regard vous portez sur cette notion de précarité alimentaire, puisque voilà, vous portez aussi une initiative dont on va reparler tout au long de ce podcast, qui porte le nom de Sécurité sociale alimentaire. Donc sans forcément définir tout de suite ce que c'est, entretenons un peu le suspense. Comment est-ce que vous voyez la précarité alimentaire? Comment est-ce que vous le définissez?
C'est peut-être un piège de rentrer par cette notion de précarité alimentaire. Le droit à l'alimentation, c'est pas quelque chose qu'on revendique, ça découle de la Déclaration des droits humains qui est en préambule de la Constitution française. Si on peut revenir dessus, c'est le droit à une alimentation adéquate lorsque chaque homme, chaque femme et chaque enfant, selon communauté avec autrui, a accès en tout instant physiquement et économiquement à une alimentation, encore une fois, adéquate et aux moyens de se la procurer. Et ce qui a été décrit juste avant, notamment sur l'aide alimentaire, ne répond absolument pas à ça. Et quand on sait qu'on est dans une grande puissance agricole, ça pose des questions assez vertigineuses. La question des violences sur les plus démunis d'entre nous, et c'est violent sur les corps, et à la fois c'est violent psychologiquement d'avoir à manger ce que les autres n'ont pas voulu manger. Donc c'est tout ce système-là qui dépasse peut-être cette question de précarité difficile à définir, et qui est juste une situation de non-droit, alors que ce droit est inscrit dans la Constitution.
Justement, on voulait vous faire écouter un son, une interview de Fatima, que Germain, tu peux présenter.
Oui, Fatima Idamou, qui pendant longtemps a géré une structure, un accueil lié à la restauration à Sarcelles, et qui s'est occupée de pouvoir justement répondre à ce besoin que la population pouvait rencontrer, de notamment répondre à leur culture, en fait, parce que l'aide alimentaire, d'une certaine manière, ne répond pas forcément à leurs besoins, à leurs attentes, à leur culture.
Ce qu'on propose aux familles, finalement, c'est une aide de basse qualité avec des produits qui sont ceux qui n'ont pas été vendus, mais aussi ceux qui sont les moins intéressants de manière nutritive. Et c'est un vrai enjeu de société, de santé publique, mais aussi de respect des personnes qui ont besoin de cette aide. Puisque lorsqu'on vous donne les restes, finalement, d'un système agroalimentaire, quel sentiment peut-on avoir de nous-mêmes ? On se sent obligé de l'accepter. Ça pose la question, finalement, de son pouvoir et de sa place dans la société.
Voilà, vous venez d'entendre donc Fatima qui aborde avec beaucoup de clarté cette dimension de la qualité de ce qu'on reçoit quand on est bénéficiaire de l'aide alimentaire et puis de ce sentiment aussi de déclassement, c'est-à-dire de recevoir comme ça des choses qui sont des surplus. Alors, avant d'aborder vraiment cette question d'où viennent les surplus, spoiler alerte, de l'agro-industrie, je voudrais simplement retourner vers vous, Tanguy Martin, parce que quand on parle justement de qualité de la production alimentaire, de qualité de l'alimentation, est-ce que ça, pour vous, ça rentre quand même dans la lutte contre la précarité ? C'est-à-dire, est-ce que sortir de la précarité alimentaire, c'est pas seulement manger tout court, c'est aussi manger mieux, c'est-à-dire manger quelque chose qui a du sens, de la valeur ?
Qui définit la qualité ? C'est-à-dire qu'on a tout un tas de gens bien intentionnés, que ce soit dans des associations ou à l'État ou dans des entreprises, qui ont toute une idée de ce qu'est la qualité de l'alimentation, mais qui peinent à se poser la question de savoir quelle est la perception des mangeurs et des mangeuses. Si en fait on devait définir qu'est-ce qu'est la qualité, c'est ce que les gens veulent bien choisir. Et donc si on revient sur cette question du droit à l'alimentation, il sera réalisé au moment où les gens ont le choix de manger ce qu'ils veulent sans qu'on ait besoin de leur expliquer ce qu'ils devraient vouloir.
Patricia, je me retourne vers vous très rapidement avant d'avancer un petit peu dans le fil de cette émission, mais tout à l'heure, je vous entendais parler de colis de légumes. Donc, vous cultivez des légumes, donc ce que vous distribuez, ce ne sont pas des boîtes de conserve ou des choses comme ça. Vous arrivez quand même à distribuer des légumes et des choses quand même assez bonnes. Comment est-ce que vous faites ça ?
Parce qu'à Dijon, on a créé un jardin partagé qui fait partie d'ATT Garmonde. Et dans ce jardin, tout le monde, tous ceux qui font partie d'ATT Garmonde peuvent venir chercher des légumes frais. C'est vrai qu'ils apprécient plus que ceux qu'on leur donne des fois à Épi-Sourire ou au Secours Populaire. C'est vrai que c'est vraiment des légumes frais, là.
Donc ça a été important pour vous aussi, chez ATT Garmonde, de développer ça, le fait de pouvoir faire sa propre alimentation.
Oui, oui. On en a discuté tous ensemble. Et puis un jour, il y a un monsieur qui est venu nous voir, qui nous a proposé justement un jardin à Corcelles-les-Monts, pas très loin de Dijon. Il nous a dit, si vous voulez, vous venez et on vous donne des parcelles. On a 4 ou 5 parcelles. Cette année, on a fait des pommes de terre, on a fait des courgettes, des salades. Et les gens, quand ils vont venir, ils vont être contents. Et nous, ça nous fait plaisir, au moins pour eux, de manger des légumes frais.
On va en reparler justement dans la troisième partie de cette émission, des initiatives qu'on peut mettre en place qui permettent de sortir un petit peu de ce modèle de la consommation des surplus d'une agro-industrie qui ne remplit pas toujours très bien son rôle. On va écouter un extrait d'un épisode de la dernière saison d'À l'écoute des solidarités, l'épisode 3, où on parlait du modèle productiviste justement et de sécurité alimentaire, mais pas en France, cette fois-ci plutôt en Afrique de l'Ouest.
L'impact du système des agro-industries sur la sécurité alimentaire elle-même dans les pays en développement, cause beaucoup de problèmes. Ça cause beaucoup de problèmes surtout à nos producteurs, à l'économie des pays qui payent le coût cher. Nous sommes dans un pays où il y a une production locale importante de poulet au Togo, mais il y a aussi des importations qui viennent des pays asiatiques et puis des pays occidentaux. Mais là où le problème existe, c'est au niveau du prix. Un poulet local ici peut coûter 6 euros à 7 euros, alors que le poulet importé coûte banalement 3 à 4 euros.
Ah oui, donc c'est moitié moins cher.
Donc du coup, vu le niveau de vie de la population, il y a plusieurs consommateurs qui s'adonnent donc au poulet importé au détriment donc du poulet local. Nous pensons qu'il faudrait qu'on change de modèle pour assurer réellement la souveraineté alimentaire. Il faudrait effectivement que chaque peuple ou bien chaque pays puisse produire ce dont ils ont besoin pour leur alimentation.
Voilà, vous écoutiez Aubin Ouaibena, chargé de programme éducation à la nutrition et au droit à l'alimentation, qui était avec nous depuis le Togo. Et on vient de l'entendre à travers cet exemple des poulets importés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, ce sont des poulets malingres, c'est-à-dire des ersatz de poulets, quoi, qui sont vraiment très peu nutritifs et bien moins bons que ceux qu'on peut trouver sur le marché local. Mais bon, souvent, ils ont servi quand même pas mal en Europe. Avant la crise de la vache folle, d'ailleurs, ils servaient à faire des farines animales. Voilà, ça en dit long. Alors, quand on entend ça, Tanguy Martin, est-ce qu'on se dit que la logique de marché remplit finalement si bien son rôle? Parce que ça a l'air d'être une sacrée contradiction. D'un côté, on a un marché local qui a l'air de fonctionner, qui produit du poulet, donc de la viande pour... voilà, pour des consommateurs locaux, et de l'autre, des produits d'importation, mais qui se retrouvent à être moins chers, finalement, que ce qu'on trouve sur le marché togolais. Comment est-ce que vous analysez ça, cette espèce de contradiction dans les termes?
Si on doit expliquer une logique à ce système alimentaire mondialisé, c'est qu'il est là pour extraire de la valeur, pour faire du profit. Et dans ce cadre-là, il fonctionne plutôt bien. Les industries agroalimentaires se portent très bien. Les gens qui y travaillent, peut-être un peu moins. Ça fonctionne très bien. Et la subsistance est en fait un effet secondaire.
On pourrait dire, pardon de vous couper, mais on pourrait dire qu'il remplit très bien son rôle, puisque finalement, il y a du poulet sur le marché togolais. Donc de quoi se plaint-on, finalement?
Si on est actionnaire certainement de pas grand-chose, si on est quelqu'un qui vit au Togo et qui n'a les moyens que d'acheter un poulet de mauvaise qualité et qui ne correspond pas forcément à la façon de faire la cuisine sur place, on a tous les droits de se plaindre, mais pas juste de se plaindre parce qu'on n'est pas content, de se plaindre parce que notre droit à l'alimentation, qui encore une fois est un droit humain, est bafoué.
Là, en effet, il y a des petites contradictions, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est contre-intuitif, semble-t-il, parce qu'on a le même problème en France, me semble-t-il. Quand on va à l'épicerie du coin, est-ce qu'on peut remarquer que le prix au kilo, par exemple, des tomates espagnoles est peut-être deux fois moins cher que le prix au kilo des tomates produites à quelques kilomètres de chez nous? Comment on est là, Laurence?
Je voulais revenir, moi, sur cette question du marché, parce que c'est celle qui est essentiel à ce qu'on évoque là. La difficulté de faire confiance uniquement au marché, c'est que elle reproduit en fait des questions d'inégalité. On a des inégalités d'accès à l'alimentation de qualité. Donc pour reprendre les tomates, on va pouvoir aller acheter des belles tomates. Pour autant, en fait, qu'on a les revenus qui le permettent. Et donc, il y a des inégalités d'accès qui se reproduisent et qui sont calquées sur les inégalités de revenus. Et donc, il y a bien une limite. On dit qu'il y a une question de réglementation en fait et de lutte contre ces inégalités là de telle façon qu'en fait chacun puisse accéder à une alimentation durable et de qualité. Le pendant au niveau international, c'est effectivement ces questions de souveraineté alimentaire, c'est-à-dire qu'en fait c'est le droit des peuples, c'est arrivé par la Via Campesina de dire voilà, les peuples ont le droit de s'organiser, d'avoir voix au chapitre sur les systèmes agricoles et alimentaires de leur pays, de telle façon qu'ils arrivent à produire, à vivre dignement et à se nourrir de manière convenable. Donc le marché a sa part, mais effectivement, il nous semble qu'il faille devoir en fait l'encadrer par l'État ou les États de manière un peu plus large, et la mobilisation citoyenne est assez majeure en fait dans ce dispositif.
Par exemple, la Via Campesina, du coup, elle invite les paysans à produire eux-mêmes, c'est ça? Mais qu'est-ce qui les empêche?
Si on veut progresser vers cette dimension d'accès de tous à une alimentation durable et de qualité, une interrogation en fait sur ce qui est au cœur des prix de l'alimentation. Et aujourd'hui, c'est l'organisation de nos systèmes alimentaires qui ont été tournés dans un premier lieu vers une augmentation de la production. C'était quand même ça, le sortir de la guerre, etc. Mais sur des modèles productivistes tournés aujourd'hui quand même beaucoup à l'exportation. Et donc, il y a des phénomènes de recomposition. Et ce qui est intéressant, c'est que les collectivités locales en France se sont saisies de ce sujet-là, en voyant bien qu'en fait, il fallait viser des formes de résilience territoriale, des formes de résilience alimentaire. Et là, c'est intéressant parce que c'est un levier de changement. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que le système alimentaire français, en tout cas, mais à une échelle plus large, je crois que c'est vrai aussi, en fait, il n'est ni juste socialement, ni écologiquement soutenable. Et donc, on est en butée de modèles. Et ça, il y a une conscience quand même assez large de cet aspect-là. Et donc, aujourd'hui, voilà, il y a besoin, en fait, de reprendre cette question-là, de la politiser, c'est-à-dire de dire quel enjeu ça représente, la dimension de l'alimentation dans l'ensemble de ces dimensions. Il n'y aura pas, en fait, de progrès, en fait, s'il n'y a pas de renforcement de la démocratie, notamment sur cette question-là.
Et justement, est-ce qu'on peut faire confiance à l'agro-industrie, puisque finalement, l'agro-industrie, elle a rempli les ventres pendant un certain nombre d'années, parce qu'elle produit beaucoup, elle produit vite, elle a la maîtrise sur l'ensemble du système alimentaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'agro-industrie, c'est un système qui inclut de la production, de l'échelle de la production, jusqu'à la vente, en fait, quasiment, même si ça représente des entreprises différentes. C'est super, non ? Enfin, c'est un levier génial, on pourrait se dire ça. Tanguy Martin, alors est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Laurenceau, ou plutôt d'accord, et j'imagine que non, avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'agro-industrie est finalement un levier qui pourrait être efficace contre ce qu'on appelle depuis le début de ce podcast la précarité alimentaire.
Alors, j'ai vraiment rien à redire à ce que dit Laurenceau, évidemment. Par contre, je voulais revenir sur l'idée que c'était l'agro-industrie qui avait rempli les ventres, et se remplir le ventre de quoi ? La majorité des gens sur Terre ne se nourrissent pas forcément à partir de l'agro-industrie, mais à partir de petites agricultures paysannes. Ça ne veut pas dire que les gens qui vivent de cette agriculture paysanne en vivent bien, ce sont les premières personnes qui souffrent de la faim par ailleurs dans le monde. Ils ont un problème d'accès aux facteurs de production, pas forcément aux pesticides de synthèse, mais à pouvoir avoir des semences et pouvoir protéger des semences paysannes pour pouvoir les reproduire eux-mêmes. Et en plus, leur agriculture est complètement dévalorisée dans l'espace public, dans les politiques publiques, etc. Mais globalement, aujourd'hui, l'industrialisation de l'agriculture à marche forcée ne résout pas la faim dans le monde, même bien au contraire, puisqu'on produit assez d'alimentation pour 12 milliards d'êtres humains et qu'il y a encore entre 900 millions, 1 milliard qui souffrent de faim sur la planète. Donc c'est que l'agro-industrie, elle est le paradigme technique d'un système global économique de domination capitaliste et que c'est ça qui est en jeu à ce moment-là, mais il ne nourrit pas.
Mais Tanguy Martin, cette question-là de compter ou pas sur l'agro-industrie, parce qu'elle est un peu, disons, sous-jacente hein, depuis le début de nos échanges, c'est-à-dire que les sons politiques que je vous ai fait écouter au tout début, on parle de bloquer les prix, donc on parle de s'adresser directement aussi à l'agriculture paysanne, mais bien à cette agro-industrie. C'est-à-dire que le levier, quand on est en temps de crise, pour le politique, il est essentiellement du côté de l'agro-industrie. Comment est-ce qu'il faut comprendre ça alors que c'est pas l'agro-industrie qui nous nourrit, c'est l'agriculture paysanne, mais quand même c'est à elle qu'on s'adresse ?
Alors, je parlais à l'échelle mondiale, hein, évidemment, en France, et peut-être malheureusement, l'agriculture paysanne est résiduelle. Donc là, je parlais de la situation internationale. En France, c'est très différent. Et donc,
Oui, mais cette adresse à l'agro-industrie, elle est malgré tout mondiale. C'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes discours. Et Aubin Waibena, dont on a écouté la voix tout à l'heure, disait d'ailleurs la même chose au Togo, pays dans lequel l'agriculture paysanne est bien plus représentée. Donc voilà, quelle que soit la représentativité de l'agriculture paysanne, l'agro-industrie reste un interlocuteur privilégié.
Dans un système économique qui cherche à faire de l'argent sur de l'argent, il est l'interlocuteur qui va faire de l'argent sur de l'argent. On revient sur la question du rôle. Et donc, est-ce que les politiques publiques qui vont accompagner et encadrer ça visent à produire de la subsistance ou visent à accompagner la possibilité à produire sans cesse plus de valeur, mais pas pour la répartir équitablement ou pour que ceux qui en avaient un peu en aient un peu plus à la sortie. Et aujourd'hui, on n'est pas prêt à dire que finalement un droit à la subsistance serait prépondérant sur des intérêts économiques.
Si je comprends bien, on est dans un système qui fait que les paysans, ceux qui produisent de l'alimentation, n'ont pas accès à leur propre alimentation. Pourquoi ? Parce qu'ils sont généralement encouragés par les gouvernements ou par l'agro-industrie à produire pour l'exportation. Moi, il y a deux questions. C'est pourquoi, en fait ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui empêche les paysans de pouvoir produire pour eux, pour leur entourage, pour au niveau local ? Première question. Et deuxième question, qu'est-ce qui fait que les gouvernements préfèrent défendre leur balance commerciale plutôt que leur propre population, et avec un accès, du coup, qui serait subventionné ou aidé, en tout cas, voilà, pour ça. Pourquoi est-ce qu'on ne développe pas, dans les pays, une agriculture locale et qu'on favorise encore un système agro-industriel ? Donc, il y a deux questions qui sont un peu compliquées, mais qui, je crois, sont quand même liées.
Tanguy Martin, peut-être, pour commencer, puis Laurent ?
Moi, sur le pourquoi, je bute. Hein. Moi, ça me scandalise et je pense qu'il faudrait aller poser la question au ministre de l'Agriculture française. On est en pleine concertation sur une loi d'orientation agricole et ce qui sort des discussions qu'on a eues sur les 6 premiers mois ne s'oriente pas vraiment vers l'idée de produire une alimentation de qualité pour toutes et tous. En tout cas, ce qui est très clair, c'est que c'est quelque chose qui vient de très loin, de la fin de la Seconde Guerre mondiale, où effectivement, on a fait rentrer à force de politiques publiques et de subventions publiques l'agriculture française dans le capitalisme. Déjà, on a fait diminuer le nombre, drastiquement le nombre de paysans en France. Mais par contre, il y a effectivement un discours, un récit de la modernisation agricole extrêmement fort, extrêmement puissant, et qui, je pense, a convaincu, et d'ailleurs convainc encore certains agriculteurs pour arriver à transformer des gens qui produisaient leur propre subsistance et vendaient le surplus aux autres à des gens qui ne produisent finalement que des denrées qui sont destinées à devenir des actifs financiers.
Alors, justement, si ce système n'a pas produit le système de modernisation dont vous parlez, Tanguy Martin n'a pas produit disons la sortie de la précarité, ou en tout cas elle génère des inégalités qui sont fortes aujourd'hui et de plus en plus fortes, puisque les bénéficiaires de l'aide alimentaire augmentent, on l'a dit, mais la qualité de l'alimentation en tout cas au niveau national des Françaises et des Français ne s'améliore pas, c'est rien de le dire. Face à ce système, comment est-ce qu'on fait pour inventer, repenser, redécouvrir des voies un peu, disons, non capitaliste, j'y mets des guillemets parce que c'est difficile de se situer à l'extérieur de ce système, on va le dire le moins possible. Dans un entretien avec Laura Petersel du réseau Salariat, donc Laura Petersel est co-autrice d'un ouvrage qui s'appelle « Régime général pour une sécurité sociale de l'alimentation » coécrit avec Kevin Cernet, nous évoquions ensemble l'exemple intéressant des AMAP. On va écouter Laura Petersel et voir un petit peu comment justement certaines propositions comme celle-là ont tenté des choses pour sortir de ce modèle agro-industriel générateur d'inégalités.
La philosophie d'origine des AMAP, elle est extrêmement intéressante parce que AMAP, c'est association pour la mutualisation d'une agriculture paysanne. C'est des individus qui se mettent ensemble et qui se cotisent pour assurer un salaire à des paysans paysannes, quel que soit le résultat des récoltes. Et ça, c'est super intéressant, parce que c'est la reconnaissance que le travail paysan, c'est un travail difficile et surtout ingrat par rapport entre le travail fourni et les résultats obtenus. On sent qu'il y a un prémisse de socialisation, en fait, et un prémisse de logique collective communiste. Aujourd'hui, dans beaucoup d'AMAP, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on est un réseau de consommateurs, consommatrices qui souhaitons avoir accès à des produits locaux de qualité, si possible bio tant qu'à faire. Et en fait, si le panier il est pas rempli, on n'est pas du tout satisfait et on se casse. Donc ça n'a plus rien à voir. On n'est plus du tout dans la même logique.
Vous écoutez toujours à l'écoute des Solidarités, le podcast du Festisol, et nous parlons toujours de précarité alimentaire et de droit à l'alimentation. Vous venez d'entendre donc de la voix de Laura Petersel du réseau Salariat au micro-radioparleur de Léo Lefrançois. Et à retrouver en longueur, en entretien, mais elle aborde là une question qui est passionnante, qui est celle des AMAP, donc ces groupements qu'elle définit très bien. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui ne marche pas pour que les AMAP qu'on connaît puissent nous permettre de sortir justement d'une relation un peu classique, on va dire producteur-consommateur, qu'elle n'arrive pas non plus à toucher finalement des gens qui pourraient en bénéficier, c'est-à-dire des personnes précaires, voilà, qui pourraient rémunérer directement un producteur ou une productrice pour ses fruits et ses légumes, et que voilà, finalement ce système a, disons, il a rencontré ni son public ni le succès escompté. Laurence, peut-être, est-ce que vous avez le début d'une réponse là-dessus sur cette affaire des AMAP?
Ce que je peux vous dire en partant de l'expérience du Secours catholique, par exemple pendant la phase de Covid, on a rencontré des agriculteurs qui se trouvaient en difficulté pour écouler leur stock, et de l'autre côté, des personnes en précarité qui avaient des difficultés pour accéder à l'alimentation. Et donc, on a monté à ce moment-là des groupements d'achat et des rencontres qui sont organisées entre les personnes en précarité et les agriculteurs. Et ça a été des moments assez incroyables, parce que de découverte de milieux qui s'ignoraient complètement, et ce modèle de groupement d'achat autour de paniers frais solidaires, on en a monté 25, puis 30, puis 40, puis 60. C'est des propositions qui sont assez simples, dont chacun peut se saisir. Mais c'est quoi la difficulté, en fait? La difficulté, c'est la question du coût. Les personnes en précarité, en fait, n'ont pas les ressources, en fait, pour acheter à un juste prix aux producteurs. Et donc, soit on joue sur la question des revenus des personnes en précarité pour qu'elles puissent payer le juste prix, soit en fait il y a besoin d'injecter des sous en fait pour arriver sur des formes d'équilibre de ce type de projet-là. Ce qui est super, c'est que aujourd'hui au Secours catholique, mais partout en fait, il y a des initiatives de ce type-là qui naissent, mais qui butent en fait sur cette même question-là. Or le travail qu'on est en train de faire à plusieurs organisations, c'est en fait de travailler d'une part en fait sur la question de l'impact social de ces projets-là, en disant effectivement quand on fait ce type de projet-là, on joue pas en fait que sur la qualité nutritionnelle et gustative, mais il y a des choses qui se jouent de la fourche à la fourchette, et ça, c'est important de le valoriser en termes de santé, en termes d'environnement, etc. Et par ailleurs, c'est des projets qui sont collectifs et participatifs et qu'on cherche à partir de ça à prendre le sujet avec les personnes en précarité et l'ensemble des personnes concernées. C'est ce qu'on a joué dans l'expérimentation que j'évoquais, là, de territoire à vivre à Lyon, Toulouse, Aix-Marseille et Montpellier. Et à Montpellier, ça a contribué à la naissance de cette caisse alimentaire commune, qui est là un dispositif hyper intéressant parce que il y a un conseil citoyen qui s'est créé. Et aujourd'hui, il y a 50 personnes qui se retrouvent très régulièrement pour discuter de tous ces enjeux-là, pardon. C'est intéressant, en fait, d'expérimenter ces projets-là. Les politiques, ça les intéresse. Pourquoi? Parce qu'en fait, il se joue quelque chose de la fabrique démocratique à partir de cette question de l'alimentation. Et quand à Montpellier, au lancement de la caisse, il y a 1000 personnes qui sont là et qui sont mobilisées, les élus n'en reviennent pas.
Peut-être, Patricia, un petit mot là-dessus, parce que ce que vous avez construit à Télé Carmonde, vous nous en parliez tout à l'heure, ce jardin, est-ce que c'est juste un jardin où on cultive des légumes parce qu'il faut manger? Ou est-ce que c'est aussi un lieu de rencontre, un lieu de sociabilité? Voilà. Comment ça se passe dans ce jardin?
Ce jardin, tout le monde y va. Ceux qui peuvent marcher, ils viennent. Ceux qui peuvent planter, ils plantent. Ceux qui veulent rien que se reposer dans le jardin, ils prennent une chaise et ils s'assoient, ils discutent entre eux. C'est une convivialité. On mange aussi, quand il fait très beau, on mange tous ensemble là-bas. C'est vrai que c'est un jardin super. Moi, j'aime bien y aller. C'est vrai que...
Est-ce que vous diriez que c'est un jardin qui est important pour les gens qui le font?
Ah, très important. Parce que je suis la première à y aller avec Jean-Christophe qui fait partie de la TT Carmonde. On y va au moins deux fois par semaine dans ce jardin pour désherber, arroser. Et puis, on a récolté nos premières courgettes cette semaine.
Vous avez de la chance.
Oui.
Est-ce que ce jardin, vous pouvez nous en dire un peu plus? Vous avez commencé à nous en parler un petit peu tout à l'heure. Combien de temps est-ce que vous avez le droit de cultiver ce jardin? Vous avez des années encore devant vous?
Oh que oui. Ça fait déjà plus de 3 ans qu'on est dans ce jardin. Si on veut y rester 10 ans, on y reste 10 ans.
Donc vous avez un petit peu de quoi voir venir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un peu des réticences parmi les personnes qui faisaient le jardin? Justement sur l'image à laquelle ça renvoie de cultiver la terre, est-ce que ça renvoie plutôt à une image positive ou à une image négative qui est celle un peu du paysan, qui a les mains sales et puis qui est un peu en bas de l'échelle sociale, quoi?
Ah non, nous on est très fiers de notre jardin à Corcelles-les-Monts. Ça nous a tellement plu que chez moi, cette année j'ai fait un jardin avec mes petits-enfants et ils en sont très fiers de leur jardin parce qu'ils savent... Qu'est-ce qu'on fait à Corcelles? Au moins, ils nous aident.
Ça me fait penser, enfin voilà, il y a plein d'initiatives locales qui sont évidemment à valoriser. Et le Festival des Solidarités, organisé notamment par le CRID et par les associations au niveau local, est là, d'une certaine manière, pour pouvoir le valoriser. Il faut que ça continue, parce que c'est un sujet qui est évidemment central dans l'histoire de France, mais aussi dans l'histoire du monde. Hein. Quel est le prix du kilo de farine, par exemple? Ça a entraîné quand même pas mal de révolutions dans le monde. Donc c'est évidemment une question qui est centrale. Maintenant, il y a une question aussi qui, du coup, me vient, c'est comment est-ce qu'on en fait un droit? Comment est-ce qu'on passe simplement de solidarité à un droit universel? Est-ce que d'ailleurs c'est possible? Et puis même d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un droit à l'alimentation?
Laurence, peut-être?
Là, les Suisses ont été assez pionniers, puisque par référendum, ils viennent de voter l'inscription du droit à l'alimentation dans la constitution du canton de Genève. On les a rencontrés... lors de notre événement de clôture, là, de territoire à vivre, ils disent, on a obtenu ça. Mais après, toute la question, en fait, est celle de la manière dont on le traduit. Par quoi est-ce que ça passe? Parce que finalement, cette question du droit, peut-être que d'autres acteurs vont dire, bah voilà, le droit à l'alimentation, c'est nous. C'est-à-dire qu'il est, il est défini de manière extrêmement large au niveau international. Et donc, il y a un enjeu très fort, nous semble-t-il, à ce que les citoyens et la société civile aujourd'hui se saisissent de cet enjeu-là. On l'a réévoqué avec l'exemple du jardin. L'alimentation, c'est aussi la base du lien social. C'est comme ça qu'on se rencontre. Donc on dit, voilà, saisissons-nous de ce sujet-là. Nous, on veut monter, suite à Territoire à Vivre, un réseau national de soutien à toutes ces initiatives citoyennes. Il y a tout le collectif autour de la sécurité sociale de l'alimentation qui contribue aussi à politiser ce sujet. Je pense qu'en fait, il y a aujourd'hui un enjeu fort, c'est un moment pour la société civile de se saisir de cette question de l'alimentation dans toutes ses dimensions, parce qu'il n'y aura pas de droit et pas de droit à l'alimentation tel qu'on le conçoit sans mobilisation de la société civile.
Tanguy Martin, peut-être, si vous êtes encore avec nous, un mot sur cette sécurité sociale de l'alimentation, qui est un sujet que vous connaissez bien.
En fait, on s'est dit, d'un point de vue alimentaire, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui marche aujourd'hui? Ce qu'on a qui fonctionne pas trop mal, auquel les gens sont attachés, c'est l'assurance maladie, c'est la sécu. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer d'élargir la sécu à l'alimentation et d'en faire un droit universel, puisque c'est bien ça qui est l'assurance maladie? Ce qu'on a imaginé à partir de là, donc, c'est que de manière universelle, tous les habitants du territoire, quel que soit leur âge, leur nationalité, pourraient bénéficier d'une allocation de 150 € par mois, dépensée sur certains produits alimentaires qui seraient choisis collectivement et démocratiquement dans des caisses de sécurité sociale de l'alimentation. On a lancé ça publiquement en 2019 et je pense qu'on est au-delà de nos espérances sur la diffusion de cette idée et de cette potentialité concrète. On est déjà au-delà de ce qu'on aurait pu penser faire.
Ça a eu un succès de librairie pour l'ouvrage de Laura Petersel et de Kevin Cernet, et puis dans certains milieux associatifs, politiques, d'ONG, mais il y a un petit plafond de verre quand même, hein, c'est-à-dire que ça n'a pas fait l'objet d'une proposition de loi dans aucune des niches parlementaires, enfin voilà. Est-ce que vous aimeriez que ça passe un petit peu ce cap-là ?
C'était dans tous les programmes des partis de gauche aux élections présidentielles. Il y a eu des propositions au conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. C'était Corinne Morel-Darleau qui, à l'époque, l'avait proposé. Enfin, voilà. Donc, ça a atteint cette sphère politique, même s'il n'y a pas eu de proposition de loi, parce que c'est quelque chose d'un petit peu plus systémique. Et donc, il faudrait que les gens qui défendent ça arrivent au pouvoir, ce qui n'est pas le cas, n'est pas encore le cas aujourd'hui.
La dernière question pour Germain Filoche.
Non, c'est plus une remarque, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est un droit qui, là, comme ça, paraît fondamental. On est encore loin, en effet, de le voir repris, en tout cas dans les bouches des différents gouvernements en Europe ou ailleurs dans le monde. Pourtant, c'est un droit qui semble vraiment fondamental à défendre. Donc, il faut que l'idée progresse pour qu'on puisse développer, défendre cette idée à la fois dans l'opinion, mais aussi auprès des députés, des élus, des gouvernements en France et ailleurs dans le monde.
Merci à tous les trois d'avoir été des nôtres pour cette conversation autour du droit à l'alimentation. Laurent Seux, responsable du programme Ensemble, bien vivre, bien manger du Secours catholique. Tanguy Martin, d'Ingénieurs sans frontières Agrista et membre du collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation, et Patricia du réseau ATD Carmonde.
Ce podcast était écrit et animé par Germain Filoche du CRID et Violette Voldoir de Radio Parleur. Pierre-Louis Collin était à la réalisation, Alice Gall à la production. Retrouvez les deux précédentes saisons sur toutes les applications podcast pour entendre les petites et grandes voix qui s'engagent pour la justice sociale et la solidarité entre les luttes.
On se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'À l'écoute des solidarités, le podcast du Festisol, pour défricher la vaste notion de souveraineté alimentaire tout au long de cette nouvelle saison.